Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G qui adorait les giallo à l'américaine, avec un tueur à gages qui accepte malgré lui un dernier contrat avant de prendre sa retraite, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, Robert Weber et Clint Harris, un tueur à gages solitaire et méticuleux, mais vieillissant. Il vient d'abattre une cible du haut d'un gratte-ciel avec un fusil à lunettes qu'il a soigneusement assemblé. Son commanditaire lui propose un autre contrat, plus juteux, en France. Un ancien mafieux est de toute évidence un indique et il a sûrement fait de la chirurgie esthétique. Clint Harris, un temps, refuse, mais il finit par accepter. Et c'est là qu'on lui file entre les bras Tony Lobello, apprenti tueur avec ses lunettes et son air juvénile pour le seconder. Lobello, c'est Franco Nero. Donc, un sacré problème sur les bras. Technique d'un meurtre de Francesco Prosperi, c'est maintenant.
Non riesco a capire. Non avete mai regalato niente voi, che c'è sotto?
Uno dei nostri è stato beccato dall'FBI 6 mesi fa. Ma cosa strana, fu rilasciato dopo 3 giorni. Sappiamo che ha parlato, non molto, certo, ma quanto gli è bastato per pagarsi la libertà. E ora siamo nei guai a Chicago e in California per tappare i buchi che ha aperto. Come se non bastasse quel bastardo ci ricatta. Era un pezzo molto grosso a Detroit e sa molte cose. Ma quello che è più grave è che ha fatto la spia. Si chiama Frank Secchi, quel tipo. Ora è in Europa.
Non è la mia zona. Questo era il mio ultimo lavoro e tu lo sapevi. Grazie tante, ma non se ne fa niente.
Clint Harris est un tueur à gages très méticuleux. Avant d'abattre une cible, il vérifie les alentours, entre par la porte d'un immeuble, prend un ascenseur, sort par une fenêtre pour remonter par une échelle à incendie sur le toit, se positionne à l'abri des regards, assemble rituellement son fusil à lunettes, positionne un cache-œil à son œil gauche, vise sa cible et tire par 3 fois avant de repartir tranquillement, de monter dans sa voiture et d'aller toucher la prime de son contrat. Seulement Clint Harris est un tueur vieillissant dont les motivations ne sont pas très claires. Son frère et sa belle-sœur savent en effet ce qu'il est. Son commanditaire lui propose malgré lui un dernier contrat. Franco Secchi, un gros bonnet de Détroit, a été arrêté par la police, mais est ressorti libre un peu trop rapidement. Il semble s'être fait la malle en France, où il a croisé la route du professeur Goldstein, un ponte de la chirurgie esthétique. Franco Secchi arbore donc à Paris une nouvelle identité et physionomie. Si Clint Harris refuse malgré une somme astronomique, des tueurs à ses trousses qui abattent son frère vont le faire changer d'avis. Mais s'il accepte le contrat, il se voit contraint de faire équipe avec Tony Lobello, un jeune tueur, un peu inquiétant malgré son air juvénile et ses grosses lunettes. Le duo part alors pour Paris, où il remonte peu à peu une piste qui le fait croiser aux abords de l'American Club des Nervi Bruto et Lucy, une femme un peu paumée. L'étau autour de Secchi se resserre, mais étrangement aussi autour de Clint Harris. Mais il est dit, depuis le début, que l'ultime confrontation entre tous les protagonistes de ce contrat sera pleine de rebondissements et de fatalisme.
Frank, Clint, senti, ho cambiato programma. Prendi la mia roba e portamela al Palisade Park. Fra un'ora. No, è meglio che non venga io, mi stanno pedinando. Forse li ho seminati, ma non voglio che tu corra rischi. Sta tranquillo. Va bene. Sì, ti aspetto.
Mm-hmm.
Technique d'un meurtre est le premier film de Francesco Prosperi en tant que réalisateur. Il a déjà fait ses premiers pas d'assistant réalisateur et de scénariste auprès de Mario Bava pour Hercule contre les vampires et surtout La fille qui en savait trop. Bava étant un maître en la matière, sa technique du film n'est pas sujette à caution. Ici, il signe également le scénario, qui est très classique mais efficace avec ce qu'il faut de tension et de rebondissement. Surtout, il propose un duo de tueurs particulièrement jouissif. D'un côté, un vieux de la vieille, Robert Weber, connu pour être le 12e juré dans 12 hommes en colère avec Henri Fonda. Cet ancien marine, pendant la Seconde Guerre mondiale, est surtout connu pour être un sacré second couteau, comme dans Les 12 salopards ou La bataille de Midway. À l'instar de nombreux acteurs américains, il aura une carrière européenne. Et il tourne ici avec un réalisateur qu'il retrouvera dans Requiem pour une canaille 2 ans plus tard. Pour l'heure, il campe un tueur à gages qui n'a plus trop l'énergie et fait plus de ses 42 ans. On sent pertinemment qu'il va se faire avoir par Franco Nero et on veut croire qu'il va s'en sortir, car malgré sa profession, sommeille en lui une certaine humanité. A l'inverse, Franco Nero, éternel Django, magnifique dans « Comment tuer un juge » de Damiano Damiani, surprenant dans « Keoma », est un jeune plein d'avenir, aussi bien à l'écran que derrière. L'acteur italien a commencé à jouer au cinéma 3 ans auparavant. « Technique d'un meurtre » est pourtant son 7e long métrage. Et ici, l'aspect inquiétant ressort par le contraste entre son visage de petit poupon et ses grosses lunettes qui laissent entrevoir un regard qui pourrait être celui d'un fou.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Quelque part, en 1987, quand il fait paraître La position du tireur couché, Jean-Patrick Manchette, pape du néo-polar, reprend la thématique essentielle du film de Francesco Prosperi, à savoir un tueur à gages qui souhaite prendre sa retraite, mais qui ne peut pas tout abandonner comme ça, car ses commanditaires ne lui font confiance que parce qu'il continue à travailler pour eux. La fin du film, avec Franco Nero et comment il se comporte, est elle aussi, même si habile, un canon du genre que l'on retrouve dans l'œuvre de John Brownlow, par exemple, initié par l'agence 17, là aussi en littérature. Et c'est bien là que l'on sait que l'on est dans un film noir, un giallo à l'américaine, avec ses plongées et contre-plongées sur les gratte-ciels et ses perspectives, ses parkings géants où des tueurs apparaissent en voiture. Car dès qu'il a abattu celle qu'il considère comme sa dernière cible, Robert Weber, qui n'est absolument pas une menace, fait face à la violence et n'a d'autre choix qu'utiliser la violence pour lutter contre elle. Surtout, dans un monde paranoïaque éventré par Secchi, qui serait un traître même s'il a franchi l'Atlantique et ne paraît plus être une menace pour l'organisation, Robert Weber sait, est en mesure de comprendre, que Franco Nero est là non pas pour l'épauler, mais pour s'assurer de sa disparition une fois son contrat accompli. Il a donc des raisons de se méfier de lui et ne peut s'empêcher pour autant de le protéger, car c'est un mentor et il a peut-être aussi besoin de lui. C'est tout le drame de ce film où la trahison existe parce que potentiellement elle s'exprime. Technique d'un meurtre, de Francesco Prosperi, c'est un giallo à l'américaine qui est aussi une étude psychologique de la trahison sous toutes ses coutures. Et c'est en bouclette, Blu-ray, DVD plus livret chez Elephant Film dans la collection Les années de plomb. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.